Le texte de Matthieu avec la parabole des deux maisons que nous venons d'écouter se trouve aussi dans l'évangile de Luc et de Marc. Ce récit se situe à la fin du sermon sur la montagne. C'est le plus long discours de Jésus. Nous y trouvons d'ailleurs certains passages les plus connus de toute la Bible, comme la paille et la poutre, tout le monde connaît, tendre l'autre joue, ne fais pas aux autres, et bien d'autres. Il fit ce sermon après avoir choisi ses disciples. Ce message leur était principalement destiné, mais la foule qui était présente écoutait et participait aussi. Lorsqu'il eut achevé ce discours, il nous est dit au verset 28 que la foule était frappée par son enseignement. Elle était étonnée par la sagesse et la puissance de son message. C'est d'ailleurs une joie aujourd'hui de connaître l'impression que produisait Jésus à l'époque sur la foule. Au point d'ailleurs qu'elle en perdait la notion du temps, puisqu'elle oubliait d'aller manger. Nous le savons par le récit des deux miracles de la multiplication des pains. Christ, donc, enseignait comme quelqu'un qui a autorité, et non comme les scribes. Parce que les scribes, eux, étaient toujours obligés de se référer soit à l'écriture, soit à la parole de tel ou tel, un rabbin ou un prophète. Ce n'était pas le cas de Jésus, qui, lui, s'exprimait par un « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. » Et lorsque l'adversaire lui citait un verset, il en corrigeait l'interprétation par un « mais il est aussi écrit ». Ce qui intriguait la foule, et ce qu'elle n'arrivait pas à comprendre, c'est d'où provenait cette sagesse que Jésus avait. Une sagesse, d'ailleurs, qui nous laisse rêveurs. Souvenez-vous comment il s'en est sorti avec les pharisiens quand ils sont venus le trouver avec l'impôt à César. « Rends à César ce qui est à César. » Ou avec la femme adultère, quand il répond en disant que celui qui est sans péché jette la première pierre. Aussi avec Nicodème, quand il répond à Nicodème et qu'il lui dit « Comment, toi, docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses ?» Merveilleux. Parce qu'il avait quand même une grande autorité et une parfaite connaissance des Écritures. Alors qu'il n'était que charpentier, fils de Marie, que tout le monde connaissait. Et il n'a jamais fait d'études. Et en plus, c'était un obscur citoyen de la petite localité de Nazareth, d'où il ne peut rien venir de bon. C'était la réponse de Nathanaël à Philippe. C'est donc en conclusion de son enseignement que Jésus cite cette parabole importante. Il nous en donne une explication avec des images d'une clarté saisissante. Tout ça pour nous faire comprendre que nous avons un choix à faire. Une décision importante à prendre en fonction des paroles qu'il a prononcées. Et voilà qu'il déclare d'une façon inattendue, on peut dire brutale même, que ceux qu'il appelle Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça veut dire que beaucoup sont dans l'erreur en pensant entrer dans le royaume alors qu'ils n'en auront pas le droit. Et parmi ceux qui se verront rejetés, il y a ceux qui vont crier à l'injustice. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Eh bien, malgré tout, le verdict de Jésus tombera comme un couperet. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a dans ces paroles sévères de Jésus quelque chose de définitif et de redoutable. Et nous ne pouvons pas rester indifférents, car cela pose question. Nous sommes tous concernés, car nous savons que Jésus parle en vérité et qu'il connaît parfaitement ce qu'il y a dans le cœur humain. Mais de penser qu'il est possible de se recommander de Jésus sans être à lui, cela nous met quand même mal à l'aise. C'est incroyable. Quand on peut lire, par exemple, dans un journal que vous connaissez, que la question sur l'enfer et la perdition, on répond, je cite, « La perdition éternelle est une allégorie dépassée et inaudible. » Je cesse de rire et je reste stupéfait que nous puissions trouver ce genre d'opinion dans un journal qui se dit chrétien. Parce que c'est pratiquement une grande partie de l'enseignement de Christ qui est sujette à caution dans cet article. Mais devant ce genre d'écrit, je conseille vivement à chacun d'entre nous d'être aussi prudent que les chrétiens de Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. C'est dans Actes, au chapitre 17, verset 11. Donc, dans les chapitres précédents, Jésus nous demande de nous méfier des faux prophètes déguisés en brebis, car ils n'enseignent pas la vérité. Ce sont des loups ravisseurs. Il a aussi parlé des deux portes, en nous demandant de choisir l'étroite, les deux chemins, les deux arbres, l'arbre qui porte du bon fruit, l'arbre qui porte du mauvais fruit. Donc avec cette parabole, Jésus met le vrai et le faux l'un en face de l'autre. Et il annonce que seul entrera dans le royaume celui qui fera la volonté de Dieu. Donc, ici, Jésus parle de gens qui se trompent eux-mêmes. Plus grave, qui sont dans l'erreur sans le savoir. Et pour qui la découverte de la vérité sera un véritable choc, un douloureux réveil. Alors, que veut dire faire la volonté de Dieu? Est-ce en essayant de vivre sans faire de tort à personne? Être toujours correct en affaires, dans la vie familiale? Être un bon fils, un bon mari, un bon père, un ami fidèle? Essayer de toujours bien agir avec les autres, à vivre une vie très sérieuse, tout cela est excellent, bien sûr, et représente une vie honorable, incontestablement morale, digne de respect. Ouais, mais ça ne suffit pas. Le jeune homme riche, lui aussi, avait scrupuleusement respecté tous les commandements. Pourtant, il s'en alla tout triste, au lieu de suivre Jésus, parce qu'il avait de grands biens. Aussi, lorsque les disciples, tout étonnés, ont demandé à Jésus, mais alors, qui peut être sauvé? Jésus répondit, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Notre conduite, aussi bonne soit-elle, n'est pas suffisante pour faire la volonté de Dieu, car ceci ne représente que la maison. Il manque le fondement. Et c'est cela que Jésus veut nous faire comprendre. Notre maison, aussi belle et confortable soit-elle, ne vaut rien si elle n'est pas bâtie sur un fondement solide. C'est quand les forces de la nature se jettent contre elle que l'on découvre si une maison est bien construite. Par beau temps, toutes les maisons se valent. C'est pour résister aux épreuves de toutes sortes, la mort, la maladie, la solitude, le chômage, précarité, enfin toutes ces épreuves qui peuvent survenir. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un fondement solide. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus nous présente deux genres d'individus, l'un prudent, l'autre insensé. Celui qui est prudent, c'est celui qui a entendu, compris et qui agit selon ses paroles. Car il faut comprendre qu'en dehors de Jésus, nous n'avons aucune espérance. Il l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par sa mort sur la croix, en versant son sang pour nos péchés, Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Et c'est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'ailleurs, lorsque nous célébrons la Sainte Cène, nous déclarons, c'est le sang de l'Alliance répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Et sa résurrection nous donne l'assurance qu'il est bien le Fils de Dieu. Car le péché nous avait séparés de Dieu. C'est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand la foule lui a demandé, que devons-nous faire pour faire des œuvres de Dieu ? Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Aussi simple que ça. Nous faisons donc la volonté de Dieu quand nous nous repentons et que nous nous confions en lui et que nous suivions ses commandements. Il l'a dit, Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà la fondation solide, inébranlable, basée sur le roc de la parole. L'homme prudent est celui qui croit au Seigneur et en celui qui l'a envoyé. L'homme prudent est celui qui fouille, qui médite, qui lit et qui relit la parole de Dieu et la met en pratique. La maison pourra alors résister à toutes les intempéries de ce monde. Et rien ne pourra séparer l'amour du Seigneur, notre Dieu, envers nous. Amen.